Et cette semaine, Daniel Haber et Blaise van der Linden se sont penchés sur les enjeux diplomatiques et médiatiques de la situation au Moyen-Orient, notamment depuis l'attaque iranienne sur Israël. On écoute leur échange.
Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors Daniel, nous allons revenir sur cette attaque du Hezbollah il y a quelques semaines maintenant sur Israël qui faisait suite à une forte tension dans la région. Depuis, on a l'impression que les temps se sont calmés. Est-ce vraiment le cas?
Au Moyen-Orient, les calmes succèdent aux tempêtes, mais les précèdent, donc le calme n'est qu'apparent. Oui, cette attaque du Hezbollah du 24-25 août a été spectaculaire. Elle a été surtout tuée dans l'œuf par une offensive absolument incroyable de Tsahal en préventif, qui restera dans les annales de l'histoire militaire de la région et qui aboutit donc au fait que le Hezbollah a dit bon ben j'arrête et Israël a dit j'arrête. Et ce qu'il faut dire, c'est que cette séquence a permis à Israël de retrouver, pas totalement mais en partie, sa crédibilité en matière militaire, en matière de renseignement. Ce qui a précédé cette attaque, c'est l'élimination de trois majeurs terroristes palestiniens et libanais en quelques jours de façon absolument spectaculaire et incroyable. Donc tout ça veut dire qu'Israël maintenant a retrouvé une forme de maîtrise, mais la guerre continue. Et elle continue parce qu'elle est menée par l'Iran à partir de tous ses alliés. On parle toujours de la confrontation sur sept fronts. Orchestré par l'Iran et qui mène en fait une guerre d'usure pour fatiguer la population israélienne, pour l'obliger à se mobiliser, pour la pénaliser économiquement. Et Israël, évidemment, a le devoir de réfléchir et de choisir ses priorités, de mesurer ses ripostes et de sortir de cette guerre d'usure. Alors, on a en fait aujourd'hui trois fronts. Et qui répond à votre question sur le calme, puisque le calme n'est qu'apparent. Les trois fronts dont je vais parler sont actifs. Le premier, ça reste Gaza. Ce sont maintenant des opérations qui sont fondées sur le renseignement, accompagnées d'opérations de commando, parfois soutenues par des bombardements très ciblés. L'idée, c'est de retrouver les otages, de trouver et de capturer les leaders du Hamas, et puis surtout de détruire méthodiquement tous les tunnels. Les objectifs de Tsahal à Gaza, ils sont clairs, contrairement aux commentaires souvent bébêtes qu'on trouve à droite ou à gauche. Il s'agit d'éliminer la menace du Hamas à Gaza. Il ne s'agit pas d'éradiquer l'esprit du Hamas qui est déjà déployé ailleurs, y compris en Cisjordanie, on va en parler. Mais il s'agit d'une part de mettre fin à sa menace et surtout de l'empêcher de se reconstituer. Il ne faut jamais oublier ça. Et donc ça veut dire pour Israël conserver le contrôle du corridor de Philadelphie, qui est la frontière avec l'Égypte, sachant que l'Égypte laisse passer des quantités massives d'armes et d'équipements dans un double jeu qui restera à éclaircir plus tard. Et puis surtout, évidemment, il faut, en même temps qu'on cherche les otages, sachant qu'on les trouvera pas facilement, négocier avec le Hamas. Mais on sait que le Hamas refuse en réalité de rendre les otages, sauf à un prix tellement absurde qu'aucun gouvernement ne pourrait accepter, tout simplement parce qu'ayant été vaincu militairement, il a encore l'espoir d'une victoire politique. Donc il faut la lui refuser. Bon, on en est là. Israël procède à méthodiquement, selon des plans déjà établis longtemps à l'avance, et on nous avait prévenu dès le départ, ce sera long. Et effectivement, ce sera long parce que c'est kilomètre par kilomètre de tunnel. Au nord, c'est là qu'il y a eu un basculement des forces de Tsahal. Elles sont portées sur le nord avant même l'attaque du Hezbollah. Et il s'agit avant tout, l'objectif avec l'éclair, c'est empêcher un 7 octobre venant du nord. Il faut jamais oublier que les tunnels ont été inventés par le Hezbollah, pas par le Hamas. Et c'est le Hezbollah qui a enseigné au Hamas comment creuser les tunnels, comment les utiliser. Donc il y a toujours la perspective d'une percée inattendue venant du nord. Et donc ça oblige une grande mobilisation de Tsahal au nord. Et puis il faut rester vigilant et il faut répliquer souvent de façon disproportionnée pour que le Hezbollah comprenne. Les États-Unis, vis-à-vis du Hezbollah, jouent un rôle extrêmement positif aux côtés d'Israël, en ayant envoyé des puissantes forces aéronavales au large du Liban. Le Hezbollah est dissuadé, et l'Iran derrière, d'envoyer des attaques plus que nécessaire. 6 000, ils ont envoyé, ils ont des milliers de missiles disponibles. On parle de 160 000, 180 000. Donc, il y a une saturation qui risquerait de passer les défenses israéliennes. Donc, il faut une dissuasion américaine. Mais en même temps, cette dissuasion, elle est vis-à-vis d'Israël. Il s'agit d'empêcher Israël d'aller trop loin dans la destruction du Hezbollah, qui voudrait dire en fait destruction du Liban. Et donc ça explique que l'opération du 24-25 août a été au fond relativement limitée. J'entends des commentaires sur certaines radios et télévisions qui disent qu'Israël aurait dû en profiter pour aller plus loin. Sûrement que ça le souhaitait, mais les Américains ont négocié leur appui contre une certaine retenue, comme on dit. Et puis il y a un troisième théâtre de conflit, c'est la Judée-Samarie. On oublie trop souvent que le Hamas, quand il est né dans les années 80 à Gaza, s'est immédiatement installé également en Cisjordanie. Et aujourd'hui, en Judée-Samarie, vous avez des cellules très actives du Hezbollah, pardon, du Hamas, du djihad islamique et d'autres milices pro-iraniennes qui sont de plus en plus actives, qui préparent des attentats. Et donc Israël est obligé d'entrer dans des camps de réfugiés près des grandes villes palestiniennes comme Jenin, par exemple, pour faire le ménage que l'autorité palestinienne est totalement incapable de faire. Elle ne peut pas entrer dans les camps. Les armes arrivent de l'Iran, elles arrivent par la Jordanie, par le désert jordanien, et elles sont transférées en Judée-Samarie par les Bédouins. Des Bédouins qui sont à la fois du côté jordanien et du côté israélien. Ce sont les mêmes familles, les mêmes clans. Et donc, il y a un approvisionnement massif d'armes ici et qui fait qu'Israël doit être extrêmement vigilant sur la Judée, c'est pareil.
On revient souvent sur ce dossier-là, Daniel, mais il y a évidemment des enjeux diplomatiques.
Alors, il y a des enjeux diplomatiques et aussi des enjeux médiatiques. Juste un mot, on s'aperçoit que la guerre médiatique contre Israël est menée aujourd'hui à l'ONU par le secrétaire général Antonio Guterres, qui est le porte-parole du Sud global et qui est à lui tout seul représente l'ONU sans qu'il soit mandaté. Il n'y a pas de vote à l'Assemblée générale, il n'y a évidemment pas de décision au Conseil de sécurité. À lui tout seul, il condamne sans cesse Israël. C'est assez étonnant de voir cet homme, un occidental, mener cette offensive. Et cette offensive est également relayée par les médias occidentaux. Le Monde, Libération, CNN, New York Times et autres, Guardian britannique, et en même temps des partis politiques d'extrême gauche en Europe, alliés aux islamistes qui sont implantés en Occident depuis très longtemps, font constamment cette guerre. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une tentative en Occident de répondre à cette guerre médiatique. Malheureusement, ces réponses sont très dispersées. Et surtout, elles n'obtiennent pas ces réponses, souvent des milieux juifs, occidentaux, alliés, avec des amis, des juifs, qui heureusement existent et des amis d'Israël qui existent en Occident, mais ils ne sont pas relayés par les grands médias. Ils font le silence sur ces. Et surtout, ils ont pris comme optique une stratégie qui ne fonctionne pas, qui est de dire face aux fake news, face aux mensonges, on va proclamer la vérité. Or, la vérité aujourd'hui, malheureusement, sur les réseaux sociaux, n'existe pas. Il n'y a pas de vérité. Et donc, ça, on peut constater donc des efforts, mais qui sont voués à l'échec. Alors, vous me posez la question sur le plan diplomatique,
Oui,
s'il reste quelques instants, oui.
c'est un volet important. Il nous reste 1 minute, 2 minutes, donc.
Si vous voulez, en gros, la Russie et l'Union européenne sont occupées à d'autres choses. Donc, les deux seules puissances qui peuvent faire quelque chose, ça tombe bien, c'est les deux plus importantes du monde, l'Égypte, les États-Unis et la Chine. Les États-Unis continuent d'aider. L'interview de Kamala Harris sur CNN, elle a parlé d'Israël en disant « Nous le soutenons ». Donc ça, il faut retenir ce soutien malgré les pressions de l'aile gauche du Parti démocrate. La Chine, elle, évite absolument de se mêler de tout ça, donc elle est très loin. Et donc finalement, les deux pays ensemble pourraient ensemble amener une solution. Il faut retenir une très importante rencontre qui a lieu le 28, 27, 27 et 28 août à Pékin entre Jake Sullivan et Wang Yi, qui sont les deux fabricants des politiques étrangères de leur pays. Ils se sont parlé longuement, ils ont tout évoqué. Le Moyen-Orient n'est qu'un des éléments dont il parle. Il y a aussi Taïwan, il y a l'Ukraine. Donc finalement, la priorité, c'est pas le Moyen-Orient. Et donc on voit bien que chacun cherche à trouver des solutions pour amener une solution pérenne. Donc le moment où on sera dans une phase de discussion à une fin des combats et à une structuration d'un Moyen-Orient plus calme, je pense que les deux pays trouveront peut-être au Moyen-Orient le lieu d'une sorte de réconciliation, sinon définitive, du moins partielle.
Et nous nous concentrerons dessus dans les prochaines semaines. Merci Daniel Aber d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.